Europe 1,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
Très heureuse de vous retrouver dans Bien fait pour vous, votre émission bien-être qui rend votre vie quotidienne plus douce. Alors ce matin, on va retrouver évidemment les bienfaiteurs d'Europe 1, vous le savez, et ils seront avec nous vers 11h45. Ils vont nous parler de quoi Mélanie?
Alors Amélie Escourou a prévu de nous prouver qu'on peut tous aider les animaux d'une façon ou d'une autre sans nécessairement en adopter. Mais il faut savoir que de nombreuses associations peuvent avoir besoin par exemple de nous pour devenir famille d'accueil pour parrainer un animal. On fera le point avec elle. Et puis notre monsieur bonne manière, Jérémy Combe, sera également avec nous aujourd'hui. Alors lui va nous faire un petit rappel de saison, le savoir-vivre à la plage.
Ah super, de quoi se préparer à passer l'été avec élégance. Mais avant cela et dans un instant, on va ouvrir ce magazine en s'intéressant à ces personnes qui représentent nos racines, mais aussi la sagesse, la sécurité. Enfin, tout dépend des familles quand même, d'autant que les temps changent. Autrefois, synonyme de grand âge, devenir grand-parent et notamment mamie, est presque devenue tendance de nos jours. Qu'est-ce qu'être grand-mère en 2023? Eh bien, ce sera notre sujet du jour. Comment ont-elles réinventé ce rôle essentiel à l'heure du tout numérique et des familles recomposées? On va en discuter avec Viviane Coves-Masfetti, psychiatre et épidémiologiste. Ce sera juste après le point de vue de Clément Lanoux.
Europe 1.
Bonjour Clément.
Bonjour tout le monde, bonjour les mamies, bonjour les futures mamies, bonjour les grands-parents en général. C'est vrai que je sais que vous êtes nombreuses à nous écouter. On les embrasse évidemment très fort. D'ailleurs, elles aiment de moins en moins qu'on les appelle mamie. Souvent c'est non mais m'appelle pas mamie, moi c'est Nicole. Ah d'accord, ok. Les grands-parents, c'est vrai que c'est génial et c'est super de dédier une émission à un mois des vacances puisque c'est quand même beaucoup moins cher que la colo et on peut le dire, les mamies comme les papys, ça sert aussi à ça, à garder les enfants. Du coup, bah, j'ai pris l'inverse et je suis allé voir les enfants. Et j'ai décidé de leur demander, est-ce que c'est cool ou pas cool de passer les vacances d'été chez ses grands-parents?
Parfois, les grands-parents, ils sont plus gentils que nos parents et ils nous achètent ce qu'on veut.
Des fois, on peut faire des trucs qu'on n'a pas le droit de faire chez nous. Du coup, bah, ça peut être bien.
Moi, j'aime bien y aller parce qu'il y a du terrain et on peut se cacher.
Parfois, ils nous cuisinent ce qu'on veut manger.
Elle me fait des frites fait maison et elles sont trop bonnes.
Chez ma mamie, c'est régime patates et crêpes.
Ils m'aiment bien, c'est déjà le principal.
Ouais, c'est vrai que c'est déjà le principal. Vous avez bien sûr reconnu le fils de Stéphane Plaza hein, qui avait vraiment le sens des priorités.
Moi, j'aime bien y aller parce qu'il y a du terrain.
Voilà. Tes grands-parents, pourquoi t'aimes bien voir mamie? Bah parce que mamie, elle a du terrain. Elle a du terrain. Je me suis dit, bon, bah, c'est forcément le meilleur argument, mais c'était avant de croiser cet enfant. Pourquoi il aime bien?
Moi, j'adore aller chez ma mamie parce qu'il y a du saucisson.
Voilà. Donc, du saucisson, du terrain.
Du saucisson et du terrain, franchement, voilà. Que demander de plus.
Ouais,
c'est le bonheur.
Alors, je leur ai dit, mais il y a forcément des trucs un peu moins cool quand on va chez les grands-parents.
Il n'y a pas trop de Wi-Fi parce qu'ils ne sont pas trop écrans. Bah, ils ont plein de meubles tout vieux là et c'est moche.
Il n'y a pas Netflix, il n'y a pas YouTube, enfin il n'y a pas beaucoup de trucs à regarder, il n'y a même pas les replays du coup.
Il n'y a pas de Lego pour s'amuser.
Ça sent l'odeur des vieux.
Bah aussi des fois quand c'est des... Bah, ils portent des grands pantalons, du coup bah, c'est pas très beau.
Bah on mange très tôt. Enfin, genre l'après-midi on mange vers midi. 12h30.
Ça va.
Et le soir, on mange vers 19h.
Mais même les poules, elles ne mangent pas à 19h.
Même les poules, elles ne mangent pas à 19h.
Moi, j'adore manger tôt.
Non, mais je voulais faire un hommage finalement aux grands-parents, mais je suis désolé. Ils se sont fait. Enfin, la vérité sort de la bouche des enfants. Donc, on va retenir une chose. Si vous êtes mamie, si vous êtes. Si vous voulez que vos enfants vous aiment, il y a deux choses qu'il faut avoir dans la vie, du terrain et du saucisson.
C'est pas
Merci
mal.
Merci beaucoup.
Vous avez les deux, Mélanie.
Je suis prête à être grand-mère, je crois, c'est bon.
Bon, c'était très chouette, Clément. Merci pour cette entrée en matière. On va maintenant accueillir plus sérieusement notre invitée, notre experte. Bonjour, Viviane Coves-Masfetti.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, épidémiologiste et l'auteur du livre « Être grand-mère aujourd'hui » paru chez Odile Jacob. Alors, on va commencer avec vous par dresser peut-être le profil des grands-mères d'aujourd'hui. Quelques chiffres d'abord. Est-ce qu'on a une idée du nombre de grands-mères en France et à quel âge en moyenne on accède justement à ce poste?
Alors, les dernières statistiques datent de 2011. Mm-hmm. Ah, c'est 2011, c'est il y a 10 ans. En 10 ans, les choses peuvent bouger. Bon, on était quand même 9 millions à l'époque, ce qui n'est pas rien, 15 millions de grands-parents. Mm-hmm. Il y a plus de grands-mères que de grands-pères. Et on devenait grand-mère en moyenne à 54 ans.
Tôt quand même.
Ah, et vous pensez que ça s'est plutôt augmenté en âge ou baissé à votre avis?
Aïe, je suis une épidémiologiste. Oui. Comment? Bon, il me faut des chiffres.
54 ans, c'est relativement tôt. Mmh. Et vous savez quelle région de France?
C'est bientôt pour vous d'ailleurs.
Bah, hein, oui, moi je rêve d'être grand-mère. Moi je vous le dis, j'ai eu qu'un enfant, j'aimerais bien avoir plein de petits-enfants. Quelle région de France en compte le plus de grand-mères?
À Alors, c'est Nord-Pas-de-Calais et Lorraine.
Ah oui, on a une explication là-dessus, pourquoi ça se passe à cette région-là ?
Ce qu'il faut voir, c'est que ça va vous paraître simpliste, mais plus vous avez d'enfants, plus vous risquez d'avoir de petits-enfants. Et oui. Et donc, je suis désolée, vous qui venez de dire que vous avez un enfant, votre probabilité est un peu moindre, mais ça ne veut rien dire.
En plus, c'est un fils, donc je vais avoir une belle-fille, elle va me détester et je ne verrai pas mon petit-enfant. Voilà l'angoisse.
Non, non, non. Alors, il ne faut pas vous angoisser. Non. D'abord, c'est une émission sur le bien-être, donc il est hors de question de s'angoisser. Ensuite, dans mon livre, effectivement, je montre que les enfants des fils et les enfants des filles, ça n'est pas la même chose. Mmh. Mais j'ai énormément de grand-mères qui adorent leur belle-fille, qui l'ont adoptée comme leur propre fille, qui s'entendent même mieux avec leur belle-fille qu'avec leur fille. Donc,
Il y a de l'espoir.
J'ai
une fille, vous avez un fils.
On peut se marier. On s'entend bien toutes les deux.
Je vous adorerais.
On pourrait faire plein de petits-enfants.
En mamie avec moi au parc.
Bon, en général, des grands-mères, on en a deux, dans la majorité des cas. Quand on est petit, elles sont là souvent les deux. Et comment on les appelle justement, les grands-mères, aujourd'hui ? Chez moi, c'était mamie et mémé. Mais mes enfants, c'est mamou et mamicha. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui ressort davantage ? Je sais pas, en 2023, on les appelle comment ? Mère grand ?
En 2023, alors bon, faut comprendre, hein, je ne prétends pas avoir un échantillon représentatif de toutes les grand-mères de France. Donc dans les 45 grand-mères que j'ai interrogées, je dirais il y a grosso modo deux clans. Il y a le clan des mamies et le clan des tout sauf mamies.
Ah oui,
donc déjà, voilà, donc il y a celle, alors on parlait d'être grand-mère, est-ce que ça rend, entre guillemets, une impression de soi plus âgée que de ne pas l'être. Enfin, c'est qu'on change de génération.
Et mamie, vous pensez que ça date un peu d'une femme ?
Bah, y en a qui sont très heureuses de s'appeler mamie, parce que je vois... alors, il y a plusieurs choses à dire sur le prénom. Il y a d'abord, comme vous le disiez, on a deux grand-mères. Donc, on ne va peut-être pas s'appeler pareil. Donc là, il y a déjà, je veux dire, presque une compétition. Donc on voit, il y en a qui préemptent. Il y en a qui, au contraire, laissent les enfants décider.
Moi, j'ai dit d'avant, ça ne sera jamais mémé. Ça, c'est
sûr, je veux m'appeler mamie. Oui, non, ça mémé, vous n'avez aucun souci à vous faire. C'est tout le monde est d'accord que mémé, ça ne le fait pas. Mais en fait, ça se passe de la façon suivante. Il y a celles qui préemptent. Et il y a celles, et ça, je trouve ça aussi adorable, c'est de dire, bon, on va voir quelques petits va dire. Et
ouais,
voilà.
C'est mignon.
Alors après, évidemment, donc là, il y a les... Mais il y a les mamies, et donc dans les mamies, il y a des déclinaisons. Alors ça peut être mamichou,
mamina, mamoun.
Alors, mamina, c'est encore autre chose. C'est-à-dire, dans les mamies, ça peut être avec le nom à coller, le prénom.
Oui.
Comme ça, on s'y reconnaît, mamie Yvonne, etc. Après, il y a une grande vogue des façons de dire grand-mère dans des pays européens, on va dire la plupart du temps.
Vous avez des exemples, par exemple ?
Voilà, alors il y a Mamina, il y a toute une série comme ça, que ce soit le nom grec, le nom italien, Nonna en particulier.
C'est un peu plus sexy.
Mamina. Écoutez, en tout cas, ça fait partie des modes.
Okay.
Je vois aujourd'hui, voilà, beaucoup. Et puis il y a celle qui se fait appeler par leur prénom.
Bon.
Et alors il y a celle qui disent j'ai un prénom beaucoup trop compliqué, il ne va jamais arriver à le dire. Alors l'enfant, en fait, le dit très bien, ou l'écorche, et ça devient un petit diminutif mignon.
Bon, que vous appeliez Mamina, Mamou, Mémé, Mamichou, même Mère Grand. On vous met à l'honneur ce matin. À quoi ressemblent les mamies aujourd'hui ? On dresse le portrait ce matin des grands-mères 2023, et même peut-être des futures Mères Grand. Qu'en pensez-vous ? Sont-elles vraiment très différentes des générations précédentes ? On continue d'en discuter dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
Ravie de vous retrouver dans Bien fait pour vous. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. On réfléchit à ce que devenir grand-mère en 2023 implique. C'est un rôle qui a beaucoup évolué ces dernières années. Et on fait le point avec Viviane Coves-Masfetti, psychiatre, épidémiologiste et l'auteur du livre « Être grand-mère aujourd'hui » chez Odile Jacob, avec une couverture sur ce livre très mignonne, hein, puisque c'est votre petite fille, hein, je crois, qui a dessiné. Et c'est vrai que la mamie, elle a les cheveux tout bouclés. Elle vous a bien... c'est très ressemblant.
Tout à fait.
C'est ça. Alors on va voir avec vous quel est le rôle d'une mamie à présent. Vous écrivez qu'elles sont toujours très plébiscitées, évidemment, pour garder les petits-enfants. Mais les grands-mères d'aujourd'hui ont quand même une vie sociale plus active que les anciennes générations. Comment elles arrivent en 2023, justement, à jongler entre le rôle de grand-mère, leur vie perso, sans se brouiller aussi avec leurs enfants, en leur disant, écoute, j'ai pas non plus que ça à faire que de garder les petits.
Alors, Alors, il y a de grosses différences. Je pense qu'il y a de grosses différences, probablement en partie suivant les classes sociales. Faut être conscient que mes 45 grand-mères, la majorité, sont des femmes qui ont eu des vies professionnelles, un certain des moyens. Mmh. Donc elles sont d'accord pour s'en occuper, mais en tous les cas, pratiquement toutes veulent avoir leur vie. Certaines hésitent même à s'engager pour le mercredi parce que ça revient vite.
C'est très engageant le mercredi. Hein, c'est
voilà.
Vrai, hein.
Et donc, dans tous les cas, par exemple, il y en a qui vont prendre leurs petits-enfants presque pendant toutes les vacances, les petites et les grandes, ce qui est beaucoup, mais il faut qu'il y ait un plan B. C'est-à-dire, là où ça coince, c'est quand ça devient une obligation.
Genre comme une nounou, une nounou bis, ça marche pas.
Ah, m'en parlez pas.
Pourquoi ?
Il y a une des grand-mères, par exemple, qui a demandé à sa petite fille, au fond, qu'est-ce que c'était qu'une grand-mère ? Et la petite fille a répondu, c'est comme une babysitter.
Ah oh. Oui, c'est pas terrible ça.
Voilà. Alors la petite fille a dit, c'est comme, hein, c'est pas tout à fait une babysitter. Mais enfin, quand même. Donc il faut voir que il y a un jeu là-dessus. Et j'ai entre autres interviewé pour diversifier un petit peu une médecin généraliste qui voit beaucoup de personnes âgées un peu différentes et qui, elle, décrit des situations beaucoup moins positives, où vraiment les enfants n'osent pas vraiment dire non. Quand ils commencent à dire qu'ils voudraient peut-être faire quelque chose, l'enfant dit « mais alors moi, je vais faire comment ?» Enfin, voilà, ça peut devenir très contraignant, mais la plupart du temps, en tous les cas, à travers les grand-mères dont je rapporte les propos, elles gèrent ça très bien et ça ne pose pas de problème.
Alors, ce qui peut poser des problèmes, par contre, c'est que la majorité des grand-mères n'habitent pas forcément la même ville que leurs petits-enfants. Comment on fait pour entretenir une relation malgré l'éloignement ? Vous-même, je crois que vous étiez loin de votre petite-fille et vous avez décidé de ne pas rester dans votre coin. Vous avez carrément déménagé pour vous rapprocher d'elle ?
Non, je n'ai pas déménagé pour me rapprocher d'elle. Ça peut... Enfin, peut-être il y en a qui le font. En tous les cas, aucune de mes grand-mères n'a déménagé pour se rapprocher.
Qu'est-ce que vous avez
mis
en place ?
Mais si on doit comparer les grand-mères d'aujourd'hui peut-être avec les grand-mères d'hier, c'est peut-être un des faits les plus marquants. Mm-hmm. Alors, il y a différentes sortes d'éloignement, il faut bien comprendre. On habite la même ville, mais on n'est pas tout près. Après, on habite une autre ville. Mm-hmm. J'ai une grand-mère, par exemple, qui a décidé que tous les mercredis, elle prendrait le TGV, elle irait voir son petit. Bon, le petit n'était pas très très loin en TGV, mais quand même. Après, donc là, bon, c'est un choix, pourquoi pas. Et puis après, il y a les grand-mères qui habitent. Alors, il y a l'étranger proche et l'étranger loin. Il y a des grand-mères dont les petits-enfants habitent en Australie. Il y a des grand-mères, voilà.
Et là, on fait comment, le Skype ?
Alors, c'est ce que j'ai appelé dans mon livre les grand-mères Skype. Et ce qui est très curieux, c'est de voir à quel point, en fait, des liens peuvent se créer à distance. J'ai été moi-même très étonnée, d'ailleurs... Avec le Covid, finalement, de facto, il y avait quand même un problème de contamination entre les grand-mères et les petits-enfants, donc ça s'est fait. J'étais très étonnée de voir, même avec des enfants très jeunes, de voir comment des grand-mères arrivaient à gérer
et à s'inscrire dans la vie,
une véritable relation.
Mais parfois c'est difficile et justement on a reçu une question d'une auditrice sur Facebook, c'est Elodie qui vit au Havre, elle dit ma grand-mère paternelle, vit à l'étranger, j'ai donc moins de liens avec elle et mon père m'oblige toujours à lui parler au téléphone ou par Skype, c'est parfois gênant car je n'ai rien à lui raconter. C'est pas toujours si simple non plus pour les petits-enfants. Moi je vois bien mes enfants, ils veulent pas prendre au téléphone. Il y a l'image, ils veulent bien, mais au téléphone,
ils n'ont pas envie de parler
avec papy mamie au téléphone. À la limite les voir ça va.
Alors, c'est intéressant parce que justement, dans les craintes des grand-mères, c'est qu'on oblige l'enfant. Je veux dire, ça fait partie des choses qu'elles redoutent. Parce qu'évidemment, on a envie d'avoir une relation, une bonne relation avec un enfant. Et un enfant qui est forcé à vous parler, bien évidemment, c'est un peu difficile d'avoir une relation de qualité de cette manière-là. Donc, je vous le dis, une des craintes des grand-mères dans les relations à distance, c'est qu'on oblige l'enfant. Et tout l'enjeu, je pense, c'est que l'enfant ait envie.
Voilà, on arrête de répéter aux gosses « Allez, parle à mamie ! Mamie !» Bon, d'accord.
Oui, ça va ?
Oui.
À l'école ?
Oui.
Et sinon, t'as quelque chose à me raconter ?
Non.
Voilà. Enfin, je voudrais pas dire, mais quand on a les petits-enfants chez soi et qu'ils parlent à leurs parents...
C'est pas non plus l'exemple.
Ce que je veux dire, c'est que rien ne vaut la vraie relation de visu. Et dites-moi, les méthodes d'éducation, c'est pas du tout les mêmes aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans. Il est pas rare que des grands-mères se mêlent des choix éducatifs des parents. Et l'une des choses qui peut agacer, c'est justement la place exagérée que la jeune génération de parents donne aux enfants de nos jours. Des enfants qui font tout ce qu'ils veulent, ça peut agacer les grands-mères, non ?
La règle d'or des grands-mères, déjà, c'est en principe de ne rien dire. Pour que ça se passe bien, on parle... Au fond, quel est le but avec un petit enfant? C'est qu'il y ait une bonne relation. Donc, si on commence à être en conflit avec les parents, bah, l'enfant, quelque part, est dans un conflit de loyauté.
Bien sûr.
Et bien entendu, enfin, la grande majorité des cas, et tout à fait normalement, il va choisir ses parents. Donc, il faut aménager. Il faut aménager.
Est-ce que la grand-mère peut signifier qu'elle n'est pas d'accord si l'enfant, par exemple, se tient très mal à table selon elle?
Alors... j'ai vu la plupart du temps, la règle est la suivante, c'est la loi du sol.
Oui.
C'est-à-dire,
c'est pas mal ça, moi je trouve. Hein.
La
c'est
loi
quoi,
du
la
sol,
loi du
c'est
si t'es chez mamie,
t'es chez
ce
moi,
qui se passe chez mamie,
c'est mes
chez
règles,
voilà.
t'es ouais. chez tes parents, c'est d'autres règles.
Moi, je trouve que c'est pas mal.
Et
hein.
on comprend que les règles ne sont pas les mêmes.
C'est enfin, pas mal parce que ça empêche le conflit de loyauté,
oui.
ça.
Alors,
mais y a une
là,
limite,
où ça
quand même,
compliqué, ouais. là où ça devient compliqué, c'est... quand on est ensemble, c'est-à-dire quand vous avez les enfants seuls, il y a la loi du sol, c'est pas trop un problème. Bon, puis il faut pas exagérer quand même, les parents et les enfants ont pas des, à ce point-là, des règles différentes. Mais le problème qui devient un peu compliqué, effectivement, c'est quand on est chez les grands-parents, mais que les parents sont là. Donc les parents font des choses que les grands-parents n'approuvent pas, et en même temps, la règle d'or, c'est on dit rien.
De l'autre côté, il y a également les grands-mères laxistes. Comment on explique que certaines mamies mais soient vraiment bien plus coulantes?
C'est même râlant, parce que enfin, moi, j'ai eu des parents sévères qui ne le sont pas du tout avec mes enfants.
Alors, comment on peut expliquer ça?
Alors, l'expliquer, ça devient compliqué, mais on peut avoir quelques...
Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est des grands-mères qui ont loupé leur rôle de mère, et elles se disent...
Alors, moi j'ai vu en tout cas les grands-mères qui ont, entre guillemets, loupé leur rôle de mère, c'est très très difficile de rattraper ça. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que la qualité de la relation des grands-parents avec les enfants dépend en grande partie de la qualité de leur propre relation avec leurs enfants. Donc là, s'il y a un grave conflit entre une mère et sa fille, ça va être quand même compliqué de voir le petit enfant. D'autant plus que quand ils sont petits, les enfants vont les amener. Si on ne les amène pas, on ne les voit pas. Après, nous ne sommes plus les mêmes à 70 ans que nous étions à 30-40 ans. À 30-40 ans, on avait nos boulots, on avait un certain nombre d'occupations,
on était beaucoup plus stressés.
Et puis, on ne fonctionne pas de la même façon à 40 ans qu'à 70. Alors après, il y a quand même ce que vous dites n'est pas tout à fait la même chose, qui est laisser faire n'importe quoi. Alors là, c'est aussi une autre question qui est un peu consumériste. C'est-à-dire, faut que les enfants aient envie de venir, donc on ne peut pas
tout
leur
passer.
Plus être trop sévère, donc il y en a qui pensent que si elles veulent que les enfants viennent, faut pas être trop sévère. Parce que pour les parents, moi je vois, j'ai des parents qui disent « Ah avec nous, ils font tout ce qu'ils veulent », alors les parents disent « Ah maintenant, il va falloir les reprendre en main
».
Alors voilà, il y a le plus et le moins. Je pense un peu de reprise en main, ça va, mais faut pas que ce soit n'importe quoi.
Eh bien merci, vous ne bougez pas, on n'en a pas fini avec vous, et surtout on va encore compléter ce tableau que l'on est en train de dresser des mamies, des grands-mères d'aujourd'hui. Alors restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. À quoi ressemblent les grands-mères en 2023? Alors je ne veux pas dire physiquement bien sûr, quoi qu'elles s'entretiennent aujourd'hui, elles sont sportives souvent et très en forme. On parle de leur rôle, de leur place de nos jours avec Viviane Coves-Masfetti, psychiatre épidémiologiste et auteur du livre « Être grand-mère aujourd'hui » paru chez Odile Jacob. Vous écrivez que les mamies ont aussi ce besoin de transmettre des choses, des valeurs et notamment le goût pour la nature et les animaux. C'est pas facile ça quand nos enfants passent la majorité de leur temps devant les écrans.
Comment on s'y prend aujourd'hui?
Ah, les écrans, ça c'est un vrai sujet pour les grands-mères. Parce que, très curieusement, en tous les cas, dans les grands-mères dont on se parle, en fait, elles, de leur temps, c'était la télévision. Et elles n'ont pas eu cette question des téléphones portables, des écrans, donc je pense qu'elles sont moins raides que les parents, qui eux, sont très inquiets.
Oui.
La plupart des parents, en tous les cas, dans les familles, moi, que j'ai interviewées...
Et a raison, quand même.
Je veux dire, trouvent que les écrans et les enfants, c'est quelque chose de terrible, que ça coupe la relation, que ça les enferme...
Et les grands-mères, elles ne pensent pas ça, les grands-mères?
Les grands-mères sont... Si vous voulez, elles sont beaucoup moins impliquées là-dedans, parce que quand elles ont élevé leurs enfants, cette question ne se posait pas du tout.
Donc elles disent aux gamins, allez, tu sors dehors, on va faire des cabanes et tout ça?
Non, c'est pas ça. Mais je veux dire, je pense que les gamins arrivent, alors avec ou sans le fameux téléphone, avec des règles. Il n'y a pas droit plus qu'une heure par jour, l'écran, c'est pas plus de deux heures par jour, ceci et cela. Et très curieusement, alors elle, ce qu'elle voit, c'est déjà la fascination des petits-enfants pour la télé,
parce que plus personne n'a de télé, donc là, ils sont scotchés devant la télé, ouais. Et elles sont beaucoup moins angoissées que les parents. Je ne veux pas dire qu'elles vont rêver que l'enfant passe son temps sur son téléphone, bien évidemment. Elles ont envie de lui faire faire des activités et qu'il se passe des choses, mais on va dire, je les sens moins raides là-dessus.
Bon, moi, je connais aussi des grands-mères aujourd'hui qui sont fascinées par Netflix et les tablettes et compagnie, et qui dorment même avec. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Parce que nous, on a des souvenirs de nos grands-mères qui nous racontaient des histoires de l'ancien temps, des grands-mères qui nous ont raconté la guerre. Et ça nous fascinait, nous, enfants, quand au bord du lit, justement, on entendait ces histoires d'antan. Les grands-mères d'aujourd'hui aussi, elles ont ce souhait-là de transmettre des souvenirs d'une autre époque, malgré tout.
Bien évidemment. Je ne vois pas pourquoi il en serait différemment. Le problème pour elles, c'est que ça intéresse leurs petits-enfants. Enfants. Le fait qu'ils soient soumis à beaucoup d'informations, très occupés. Un des gros problèmes des grands-mères, c'est que les petits-enfants ont des emplois du temps invraisemblables. Il y en a une qui me dit, bon, moi, je ne vais pas faire une demi-heure de transport juste pour emmener mon petit-enfant du piano au tennis.
Ouais,
voilà. Donc, je pense que le problème est plus l'intérêt. Ce n'est pas qu'elles n'ont pas envie de raconter. C'est que pour raconter, il faut quelqu'un qui ait envie d'entendre.
Alors, nous allons accueillir à présent par téléphone Monette. Bonjour, Monette.
Bonjour Julie, bonjour l'équipe.
Vous êtes grand-mère de deux petits-enfants. On a parlé des règles qui pouvaient être différentes chez les parents et chez mamie. Chez vous, je crois que les enfants ne font pas ce qu'ils veulent, notamment à table, il y a des règles à respecter.
Oui, c'est-à-dire que maintenant, bon, mes petits-enfants sont grands. La plus grande a 21 ans, j'en ai 5. Enfin, j'en ai 2 de sang vraiment, mais j'en ai 3 rapportés, mais je les considère comme petits-enfants. Mmh. Bon bref, c'est-à-dire j'étais encore à la... Peut-être à la vieille...
À la vieille école,
c'est-à-dire mettre la serviette, bien manger, fourchette, couteau...
Et alors, voilà. Vous êtes...
Ils respectent ou pas?
Ouais, est-ce qu'ils respectent?
Si, ils ont respecté. Quand ils venaient chez moi, il fallait pas venir toucher les objets. Pour aller à la piscine, il y avait des règles. Ne pas rentrer mouillé dans la maison. Voilà, donc ils ont respecté. Bon. Et mes petits-enfants sont bien élevés, je pense. Voilà, ils ont accepté.
Bon, on peut dire que vous êtes une grand-mère, alors un peu pas l'ancienne, mais en tout cas avec des règles qui sont respectées et une certaine autorité. Et à la fois, vous n'êtes pas une grand-mère qui reste non plus faire tout le temps que la popote à la maison. Vous êtes souvent en voyage, je crois que vous allez sauter bientôt. Ça, on a halluciné. C'est pour ça qu'on vous a pris. Vous allez bientôt sauter en parachute. Sérieusement, Monette, ce sont vos enfants qui vous poussent à ces folies?
Pas du tout. C'est ma folie à moi parce que je suis un peu rock'n'roll. Je suis pas mamie calme. Je suis, j'adore le ciné, j'adore danser, j'adore voyager, j'adore rire. Enfin voilà. Donc voilà, très jeune dans ma tête.
Comment vous appellent vos enfants? Ils vous appellent mamie Monette ou Monette? Comment ils vous appellent?
Non, Maminou.
Oh, Maminou, c'est mignon.
Maminou, voilà, et mon mari, c'est Papichou.
Oh, c'est trop mignon.
Bon, écoutez, merci beaucoup, Maminou et Papichou, à vous l'embrasser pour votre témoignage sur Europe 1. Merci à vous, Monette. Viviane, on a l'image de la grand-mère et de la belle-fille qui se détestent. Comment on explique qu'il y ait des points de désaccord dans cette relation? C'est de la jalousie de la part des grands-mères ou c'est inversement de la jalousie de la part des belles-filles?
Mais je ne suis pas d'accord avec les désaccords entre belle-fille et grand-mère. Je pense qu'il peut y avoir des désaccords entre fille et mère. Mmh. Et qu'entre belle-fille et mère, au contraire, ça peut très bien se passer.
Oui, vous dites pourtant quand même qu'il y a les relations des grands-mères avec les enfants de leurs fils ne sont pas les mêmes que les relations, en général, encore une fois. Il y a des cas particuliers. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quelle est la relation d'une grand-mère avec les enfants de sa fille?
Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a deux choses. Il y a l'accès aux petits-enfants. Et c'est vrai que c'est plus difficile d'avoir accès aux enfants du fils qu'aux enfants de la fille. Parce que souvent, c'est la mère qui prend les décisions, qu'elle est plus proche de sa mère et que c'est comme ça que ça se passe.
Autour de nous, non? Vous êtes d'accord, Julien?
Mais évidemment. Ouais,
mais ça ne veut pas dire conflit. Non. Par contre, moi, j'ai beaucoup de témoignages de grands-mères qui s'entendent extrêmement bien avec leur belle-fille.
Ouais, c'est obligatoire.
Et d'une certaine manière, on va dire, c'est presque plus facile qu'avec sa propre fille, dans la mesure où c'est un peu plus éloigné et quelquefois, c'est plus facile. Et d'ailleurs, je pense que c'est Monette, tout à l'heure, a commencé à évoquer justement ces familles recomposées. Avec quelquefois en plus des petits-enfants.
Elle a dit j'en ai 3 plus 2. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ces enfants, petits-enfants rapportés peuvent être considérés, comme le dit Monette, vraiment comme des vrais petits-enfants, quoi?
Bien entendu, parce qu'il faut réaliser que la question du divorce, elle est omniprésente. Soit les grands-mères ont elles-mêmes divorcé, soit les enfants divorcent. Là, il y en a 1 sur 2. Donc voilà. Et il faut d'ailleurs comprendre que quand les enfants divorcent, pour les grands-mères,
C'est affreux. Non pas, enfin, la plupart du temps, elle ne se mêle pas de cette histoire-là et ce n'est pas la question, mais les vacances deviennent divisées par deux, tout devient divisé par deux. Donc là, les enfants sont beaucoup plus vigilants sur le temps qu'ils passent avec leurs propres enfants.
Oui.
Et là, ça se décompte du temps de la grand-mère et qui, du temps où les enfants étaient en couple, avait toutes les vacances, alors que là, c'est divisé par deux.
On n'y pense pas, hein, mais divorce, effectivement, de parents, ça peut être vraiment très dommageable pour les grands-parents.
Mais pour revenir au rapport entre les grands-mères et ce que j'appelle les beaux petits-enfants, il y a des tas de témoignages absolument magnifiques. Mm-hmm. C'est des nouvelles relations, c'est différent. Les enfants, il ne faut pas croire, ils peuvent aimer beaucoup.
Mais je crois que vous avez tout de même des témoignages qui disent on s'en occupe et ce n'est pas toujours pareil.
C'est vrai, ça dépend des grands-mères. Mm-hmm. Alors, ça dépend aussi de la proximité qu'elles ont avec leurs propres petits-enfants.
Et leurs propres belles-filles ou beaux-fils aussi.
Absolument.
Autant d'histoires à raconter. Je crois qu'on fera une autre émission sur les grands-mères, il y a trop de choses à dire.
Mais très volontiers.
Et sur les papis aussi.
Ah oui, on parlera des papis aussi.
Eh bien, merci beaucoup Viviane d'avoir été notre invitée ce matin sur Europe 1, d'avoir répondu à toutes nos questions. On a une meilleure idée du rôle de grand-mère aujourd'hui. C'était vraiment très intéressant. Merci encore. On change de thématique maintenant, Mélanie.
Oui, à suivre, les bienfaiteurs du jour d'Europe 1 vont nous rejoindre. Amélie Escourou va nous prouver qu'on peut tous aider les animaux d'une façon ou d'une autre sans forcément en adopter un. Et ensuite, on va faire un petit rappel des bonnes manières à la plage, une bonne préparation à l'été. Et ce sera signé Jérémy Combe. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Quel bonheur de vous retrouver ici dans l'émission qui vous facilite la vie. Nous sommes à vos côtés comme chaque jour jusqu'à midi. Et maintenant, à nos côtés, à nous, autour de la table, il y a Jérémy Combe. Monsieur Bonne Manière, bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes et tous.
Alors comme ça, même en bikini, même en short de plage, il ne nous faut pas relâcher l'étiquette. Hein.
Ah mais je ne suis pas là pour rigoler, moi.
Ah ouais,
quelle étiquette ? La situation.
L'étiquette, Julia.
L'étiquette du maillot de bain.
Ah, c'est pas l'étiquette du maillot de bain.
Ah oui, d'accord, on en est là aujourd'hui. Alors on va dire le mot code. Employons le mot code, parce qu'il n'y a pas de code. Maillot de bain, Julia. Eh bien oui, on va voir ensemble comment il faut se comporter.
Eh bien super Jérémy, on vous retrouve tout à l'heure sur la plage et en maillot de bain, j'ai hâte de voir ça. Mais à présent, on va faire du bien à nos amis les animaux. Avec vous Amélie Escourou, bonjour.
Bonjour, bonjour Amélie. Bonjour.
Aujourd'hui, on va découvrir avec vous comment aider les animaux abandonnés et ça même quand on ne peut pas ni adopter ni donner de l'argent.
Exactement. Aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à être touchés par la cause animale. 86% des Français le déclaraient dernièrement. Alors habituellement, moi je vous parle de la cause animale par rapport à notre alimentation, notre mode de vie, mais il y a aussi les animaux de compagnie. Parce que malheureusement, en France, on a beau les adorer, on reste encore les champions d'Europe de l'abandon, notamment à l'approche de l'été. Et si vous passez beaucoup trop de temps, comme moi, devant les vidéos marrantes d'animaux sur les réseaux sociaux...
Genre les petits chatons, évidemment,
voilà.
On adore.
On en est tous accros. Hein. Et ben vous savez aussi qu'on est très souvent sollicité par des annonces SOS pour adopter tel chien ou chat dans une association.
Ben oui, et on s'en rend souvent impuissant parce que moi je les trouve trop mignons. Si je pouvais, je les adopterais tous, mais je ne peux pas adopter tous les chats et les chiens de la Terre, c'est pas possible.
Et oui, malheureusement. Mais heureusement, il existe quand même plusieurs moyens de pouvoir aider. Alors la première idée, elle est lumineuse et c'est la jeune start-up YouCare qui l'a eue. Il s'agit simplement d'utiliser notre téléphone ou notre ordinateur, comme on le fait tous, hein, tous les jours, et ça va générer des dons aux associations.
Ah bon ?
En fait, YouCare a inventé un moteur de recherche caritatif qui est gratuit comme Google ou Yahoo, que vous utilisez pour faire vos recherches internet. Et toutes les 45 recherches, vous offrez un repas à un animal de refuge. Thomas Moreau, le fondateur, nous explique.
YouCare, c'est un moteur de recherche caritatif. Ça permet de financer des bonnes actions grâce aux résultats sponsorisés. Donc, par exemple, on va taper Hôtel Paris et donc Booking va tomber en premier. Booking va nous payer pour ça. Et grâce à ça, on peut financer des bonnes actions qui vont être choisies par l'utilisateur. Au bout de 45 recherches, on finance un repas pour les animaux des refuges. On peut même choisir quelle est l'association qui va être bénéficiaire. On a plus de 400 associations partenaires sur YouCare. Et après, on montre toutes les photos de tous les repas qui sont offerts grâce à ce système-là. Et ça permet de gratuitement, sans aucun temps, de pouvoir aider du coup ces associations, tout le monde peut le faire. Depuis la création de YouCare, on a reversé 250 000 euros de dons, donc en 4 ans, pour une start-up, c'est assez important.
Vous avez entendu, mais c'est beaucoup d'argent.
C'est beaucoup, et vous savez combien ça fait de repas? Ça fait plus d'1,5 million de repas offerts.
C'est énorme, c'est super ça. Donc en fait, juste en cherchant, par exemple, les horaires d'une séance de ciné sur Internet, on fait déjà une bonne action.
Exactement, en fait, ils ont rentabilisé un geste qu'on fait déjà tous. En plus, c'est un moteur de recherche qui est anonymisé, ça veut dire qu'il ne collecte pas nos données personnelles.
Ça, c'est chouette.
Ça, c'est chouette. Ensuite, il y a une deuxième action qui aide vraiment les animaux abandonnés et qui est très peu connue. Les vacances approchent et si vous avez la chance de partir aux Antilles ou à La Réunion, les associations ont besoin de vous.
Alors, attendez, comment ça? On fait du bénévolat sur place?
Alors, c'est encore plus simple et encore une fois, l'idée, c'est pas de vous prendre du temps. En fait, dans ces territoires et notamment sur l'île de La Réunion, le nombre d'animaux errants explose les chiffres. Voilà, donc malheureusement, les associations ont vraiment besoin de voyageurs volontaires pour ramener les animaux en métropole où ils ont plus de chances d'être adoptés. Alors, en tant que voyageur, vous n'avez rien à faire, rien à payer, c'est l'association qui s'en charge. En fait, il faut juste récupérer la cage de transport à la sortie du vol avec vos bagages et la donner à la famille d'adoption qui attend.
Mais c'est génial, rien à faire, et savoir qu'on a fait une bonne action en rentrant de vacances, ça permet aussi d'être moins triste de rentrer.
Exactement.
Je trouve ça génial.
C'est génial, c'est simple, ça ne demande aucun investissement en fait. Donc pour ceux que ça intéresse, je vais mettre les références de ces associations sur europe1.fr, sur mon compte Instagram. Et par exemple, il y a l'association Sauvade ou Sauve ton Bourbon qui organise ce genre de sauvetage. Enfin, il y a une dernière façon d'aider qui est un peu plus implicante, mais qui ramène aussi un maximum de love, c'est devenir famille d'accueil. En fait, c'est accueillir chez vous un petit poilu le temps que l'association lui trouve.
J'ai déjà accueilli Jérémy.
C'est génial.
Le temps qu'on lui trouve une vraie famille.
Exactement,
en fait,
le temps qu'on lui trouve une vraie famille. Et puis pour ceux qui se demandent encore s'ils veulent adopter,
c'est
ça permet.
Bon test,
ça fait un petit test. Et d'ailleurs, YouCare, la start-up qui a créé le moteur de recherche, a aussi fondé sa propre association. Elena, qui y travaille, nous explique comment on peut les aider.
Donc depuis un an et demi que l'association elle existe, nous on a 350 sauvetages. Donc même si par exemple vous ne pouvez pas adopter, vous avez la possibilité d'être famille d'accueil pour nous aider au quotidien avec les animaux. Vous pouvez également partout en France aller chercher des dons chez nos partenaires. Il y a aussi la possibilité par exemple de récupérer des animaux qui proviennent de La Réunion, les récupérer à l'aéroport pour les emmener jusqu'à l'association, mais également aussi récupérer des animaux qui viennent de la fourrière pour les ramener jusqu'à l'association. Vous pouvez faire plein de petites missions comme ça pour aider l'association au quotidien.
Et en fait, de l'aide, ils en ont vraiment besoin. Ces associations, pour en avoir discuté avec eux, ils sont tous débordés. Et comme de nombreuses études de psychologie le disent aujourd'hui, il paraît qu'aider, ça rend heureux.
C'est
Voilà, pourquoi s'en priver ?
Mais oui, c'est génial. Merci hein, vraiment,
Bravo.
Merci.
Honnêtement, que des infos que j'ignorais et que je vais m'empresser de mettre en pratique. Merci
beaucoup.
Amélie. Maintenant, rien à voir, on va sortir les bikinis, les serviettes
de plage. On vient de parler de La Réunion quand même.
Voilà, la crème solaire et on n'oublie pas donc nos bonnes manières. Jérémy, comme c'est à vous, avec vous, évidemment, rien ne nous étonne. Vous allez nous donner les bonnes manières, comme vous dites, à appliquer à la plage. Non, mais vous plaisantez en vacances aussi. Hein.
Mais moi, je ne suis pas un rigolo. Il faut quand même que vous en rendiez compte. Même à la plage, mais vous allez voir, c'est du bon sens. C'est un peu du civisme, plus que des bonnes manières sur cette chronique. Le décor, vous voyez, c'est la plage, le sable chaud, la mer turquoise, la caravane ou la maison en arrière-plan. Parce que pendant les vacances... Eh bien non, justement pendant les vacances, on n'oublie pas les codes de bienséance dans nos valises, mesdames.
Ah d'accord, donc vous n'êtes pas contents aujourd'hui. Dites-nous comment être bien comme il faut à la playa, Jérémy. Vraiment, ne faire aucune faute de goût. On prend des notes avec Mélanie.
Ouais, alors déjà, mesdames, ne soyez pas à l'origine. Vous savez ce qu'on appelle de la tempête de sable que nous avons tous vécu une voire une dizaine de fois. Vous voyez cette espèce de personne qui arrive, qui secoue sa serviette comme si elle était toute seule.
C'est pour ça que je ne vais plus à la plage.
Ah, vous allez où?
Je reste à la piscine. Ah non, moi je vais à la piscine.
Ah bah oui. Voilà.
À cause des gens. Ah, je vais pas à la plage en été, non, jamais.
À cause des gens qui se comportent mal.
J'en ai marre.
L'air un peu distancé, car normalement je ne vais jamais à la plage en été.
Jamais.
Et quand vous naviguez pareil entre les serviettes, vous voyez, avec vos enfants, on le fait plutôt pieds nus, pas avec vos claquettes ou vos espadrilles. Parce que vous savez, quand ça tape dans le talon, c'est pareil, on éclabousse sur tout le monde. Ne faites pas comme si aussi vous n'aviez pas vu les constructions en sable des plus petits.
Ça, c'est pas gentil.
Ah bah,
y en a qui font ça, franchement.
Ceux qui se promènent genre, je suis amoureux, c'est ma date. Pouf, un coup dans le château de sable.
Ça, c'est pas sympa. Et aussi dans les noms avec des cœurs.
Exactement.
Des amoureux.
Et là,
qu'on a
marqué. On piétine.
Oh,
Roman le fait régulièrement, c'est un peu dommage. Faites un détour autour de toutes ces constructions. Et puis, comme je viens de vous dire, le secouage de serviettes, c'est ce qu'il y a le plus à l'origine. Qui est à l'origine, pardon, le plus de rixes entre des familles qui sont à la plage. Même chez des personnes bien élevées, le sable que l'on se prend dans les yeux, ça peut énerver.
Alors, il y a aussi, Jérémy, ce que vous appelez le béaba. De quoi s'agit-il chez vous ?
Alors, disons que moi, je n'ai rien contre les parasols. Chacun qui arrive avec son petit parasol à la plage. Mais en revanche, vous savez, la muraille de Chine qui s'installe, vous n'avez pas la chance d'être au premier rang, mais au deuxième ou au troisième rang, la plage, c'est le domaine public. On a tous le droit de profiter
de la voir,
le sable, la mer. Et la courtoisie veut qu'on fasse attention aux autres. C'est pareil, quand vous arrivez sur une plage, qu'elle soit publique ou privée, comme dans certaines régions, la bienséance suggère de saluer ceux et celles qui sont autour de vous.
Ah oui ?
Bonjour,
ah bon ?
Hello, idem quand on part les premiers.
Avec Julien, j'ai jamais dit ça.
Ben on voit très bien arriver comme deux petites snobs là sur la plage, et on voudrait même qu'on vous mette votre serviette. Eh bien non,
non. Pas jusque là.
Il ne s'agit pas d'en faire des
mais
tonnes.
Ils ne disent pas bonjour non plus.
Bah, oui, justement, vous leur direz. Il nous a dit que.
D'accord.
Dans la mesure, il faut mettre de la mesure. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de relations amicales qui se créent. À la plage.
Non, mais c'est pour ça qu'on n'a pas d'amis.
Allez, coquille
aujourd'hui,
Julien. Voir plus. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand ils viennent avec des transistors qui mettent de la musique que j'aime pas.
Alors, justement, ça, la musique, c'est pas possible. Mais je vous l'ai déjà répété vraiment plein de fois. L'ADN de la bienséance, c'est la discrétion.
Oui, bah,
alors,
c'est ça.
Voilà, quand vous arrivez à la plage, n'arrivez pas avec un ou la musique à fond, une petite enceinte.
C'est insupportable.
Il y en a qui se sont, privés toute l'année pour s'offrir une semaine de vacances. C'est le moment paisible dans leur vie personnelle et professionnelle. Respectez-les, respectez-nous.
Et je ne sais pas vous, mais moi je suis quand même parfois un peu étonnée par les tenues vestimentaires de certaines personnes à la plage.
Ça, c'est rigolo, c'est pas
forcément mal élevé. Oui, j'aime bien, tout enfilé, j'aime bien, mais c'est
je
cirque.
Suis quand même assez content qu'on aborde le sujet. Parce que là, franchement, j'ai parfois des nausées. Ce n'est pas qu'à cause du rosé. Oui. C'est une honte. La plage n'est pas un lieu où tout est possible.
Il est ronchon, genre.
Ah oui, il ne faut pas exagérer.
Il y a un minimum à respecter.
Non, mais c'est quoi le minimum ?
Pareo ou robe de plage pour vous, mesdames, quand vous arrivez ou quand vous allez déjeuner ou à la baraque à frites ou au restaurant de la plage.
Polo. Oui. Nous, on le met le pareo avec Julien, mais c'est pas pour être poli.
C'est pour cacher la misère. C'est pour cacher la misère. Voilà. Ce qui est une forme de politesse.
C'est finalement aussi. Messieurs, polo ou chemise, on va parvenir sur la chemisette qui est alors vraiment bannie. Et pour les enfants, idem, on leur met un petit t-shirt ou la combinaison qui protège des UV. J'ai envie de lancer un SOS.
Oh là,
hein. SOS.
Il est sérieux aujourd'hui.
Si vous déjeunez au restaurant de la plage ou comme je viens de le dire, à la baraque à frites, parce qu'on aime bien les panini frites un peu gras pendant les vacances,
les pambagnas,
on ne vient pas torse nu.
Non, c'est dégueu. Alors, ça se met dans les poils gras.
Voilà. Je ne vous demande pas d'illustrer non plus tous mes propos à ce point-là. Ne levez pas les yeux au ciel, Mélanie, je vous vois.
Je ne sais pas pourquoi elle parle de ça.
Je défie quiconque de ne jamais avoir été témoin d'une personne qui arrive torse nu.
Et vous, pour terminer, vous avez encore joué au gendarme, Jérémy. Vous êtes vraiment passé à côté de votre vocation, je crois.
Merci, mais je suis quand même un camarade sympa, n'hésitez pas à m'inviter. Vos enfants, outre le fait de ne pas crier non-stop, doivent savoir prêter leur jeu de plage. Tant pis si leur empruntait le seau de Louis, c'est comme ça à la plage. Savoir prêter fait partie de la base de l'étiquette, mesdames, avec vos enfants.
Et de quelle étiquette il parle ?
De savoir-vivre.
Celle du pareo.
Ça fait un an que je vous parle de savoir-vivre quand même. À toutes celles et tous ceux qui fument et ne peuvent s'en empêcher pendant deux heures, même des cigarettes électroniques, il est impératif de vous éloigner de vos voisins et de vous mettre à l'abri du vent, pas la peine d'entrer dans les détails. Et là, mes yeux pleurent souvent. Laissez la plage nette. On réemballe tous les déchets qu'on a laissés. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui.
Et qu'est-ce qu'on n'oublie pas ?
Que les bonnes manières, ce n'est pas obligatoire, mais même à la plage, c'est bon à savoir.
Eh bien, merci Jérémy. Merci beaucoup également Amélie pour tous ces conseils. Cette émission est terminée. On se retrouve bien sûr lundi à 11h. Julia, ça sera quoi notre sujet lundi ?
Ah, lundi, on va parler d'amour. D'amour avec un grand A. Dites-moi, l'amour pour vous, c'est un peu beaucoup à la folie, passionnément. Que seraient nos vies sans connaître le désir et la passion ? Pourquoi prend-on le risque d'aimer malgré les peines de cœur ? L'amour peut-il vraiment nous rendre fous ? Vous l'avez compris, ce serait une émission passionnante à découvrir lundi.
Super, maintenant on va laisser la place à l'info sur Europe 1, car à suivre c'est Europe 1 Midi avec Romain Desarbres. Alors quel est le programme ?
Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Dans Europe 1 Midi, on va revenir sur une actualité dramatique, le suicide de la petite Lindsay, 13 ans, qui était harcelée à l'école. 5 personnes sont mises en examen. Comment lutter efficacement contre le harcèlement scolaire ? On va en parler avec l'invité d'Europe 1 Midi qui connaît ce sujet par cœur, Sabine Van Hegg. Elle est sénatrice socialiste du Pas-de-Calais. Et elle a travaillé sur ce sujet. On en parlera bien sûr aussi avec vous. 01 80 20 39 21. Et puis on va parler de l'eau. L'eau qui est devenue une ressource rare. L'eau qui est devenue une ressource qui va être de plus en plus chère. La sécheresse frappe de nombreux départements. Esther Crozer-Delbourg est économiste spécialiste des questions de l'eau. L'eau, c'est le thème de ce vendredi thématique sur Europe 1. Voilà les sujets qu'on va traiter. Il y en aura d'autres bien sûr. A tout de suite.